Bonsoir. Vaccination obligatoire pour les soignants, oui ou non? Réforme des retraites, stop ou encore? Emmanuel Macron va-t-il trancher lundi soir? Le président à la télé à 20h. Étudiants, vaccinez-vous si vous voulez retrouver les bancs de la fac en présentiel. Le message de la ministre Frédérique Vidal qui évoque une rentrée en mode hybride. On verra ce que ça veut dire. On parle de l'école aussi dans le téléphone sonne ce soir, Claire. Après la réforme, que reste-t-il du bac?
Bonne question. Jean-Michel Blanquer compte bien poursuivre sa réforme lancée avant la crise du Covid, une crise qui indirectement lui a facilité la tâche puisque, vous le savez Hélène, cette année, le contrôle continu a représenté 82% du bac. Le ministre veut 40% de contrôle continu à l'avenir, 60% d'épreuves terminales. Certains s'en inquiètent et se demandent si ce sera encore un examen national. Alors on en parle au 01 45 24 7000.
Dans l'actualité encore, Manhattan, Kaboul, les Américains quittent l'Afghanistan, les talibans reviennent plus puissants que jamais. Nous irons aussi à la gare de Lyon. Avant de surfer la vague, il faut zigzaguer dans la foule. Premier gros week-end de départ en vacances. À Cannes, Alexis de Meyer a vu le sulfureux Benedetta de Paul Verhoeven. Et sur la route du Tour, Carcassonne, Cavendish, rattrape Merckx, la légende, au compteur du nombre de victoires d'étape.
France Inter.
On se doutait que le président prendrait la parole avant le 14 juillet. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
France Inter a donc eu la confirmation. Emmanuel Macron sera lundi soir, 12 juillet, 20h à la télé.
Oui, une allocution télévisée. C'est le format finalement choisi par l'Élysée, plus solennel, plus adapté qu'une interview pour faire passer des messages aux Français. Celui du 12 juillet sera, à n'en pas douter, faites-vous vacciner, car la progression du variant Delta oblige le président à accorder beaucoup de place aux sanitaires et aux éventuelles nouvelles restrictions. On parle beaucoup de la vaccination obligatoire pour les soignants. Un conseiller confirme, ce sera la crise et ses conséquences économiques avec focus sur le plan de relance. Pour le reste, le président devrait poser quelques jalons de fin de mandat, dit une source ministérielle. Ne pas se laisser enfermer par le Covid, donc en fixant un cap avec peut-être des arbitrages sur la réforme des retraites ou la garantie jeune universelle. Tout ça au conditionnel, Hélène, car avec Emmanuel Macron, rien n'est jamais figé. Le président, nous dit-on, va travailler sur ses annonces jusqu'au tout dernier moment.
Élodie Forêt, le chef de l'État, qui devrait donc en dire plus lundi soir, allocution télé à 20h et à l'instant, la Haute Autorité de Santé qui recommande que soit envisagée sans délai l'obligation vaccinale pour l'ensemble des professionnels en contact avec des personnes vulnérables. Le variant Delta majoritaire dans notre pays, sans doute d'ici ce week-end, les contaminations qui repartent à la hausse, seuil d'alerte dépassé en région parisienne et pourtant pas touche au calendrier du déconfinement pour l'instant. Les boîtes de nuit rouvrent après 16 mois dans le noir, mais vu le protocole sanitaire, 20% seulement d'entre elles devraient rallumer les spots ce soir. D'autant que le virus circule activement chez les 20-29 ans jeunes. Faites-vous vacciner si vous voulez avoir une chance de retrouver les bancs de la fac à la rentrée. La forte, très forte recommandation de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur ce matin.
Je pense que c'est très important de dire la vérité. Et moi, les étudiants le savent, hein, je leur dis la vérité. C'est pas une menace. C'est pas une menace du tout même. C'est juste la réalité. Si à la rentrée, nous voyons que l'épidémie repart, le fait qu'ils soient vaccinés nous permettra de maintenir du 100% présentiel dans les établissements. S'ils ne sont pas suffisamment vaccinés, à ce moment-là, on prendra les mesures nécessaires, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui ni comment sera l'état sanitaire de notre pays et de l'Europe et du monde à la rentrée, ni quelles sont ces mesures. Mais par contre, je ne peux pas leur dire, même si vous n'êtes pas vaccinés, tout continuera à se passer normalement. Ce serait leur mentir et je crois que les étudiants n'aiment pas quand on leur ment.
Bon alors, les vacances à peine commencées, qu'on a déjà un œil sur septembre et la rentrée. Bonsoir Sonia Princet.
Bonsoir.
Si l'étudiant est vacciné, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il sera en présentiel à 100%? La ministre le promet, mais parle aussi d'un mode hybride. Bref, on n'y comprend pas grand-chose. Pouvez-vous nous éclairer?
Alors Frédérique Vidal souhaite que 100% des étudiants retrouvent leur campus à la rentrée de septembre. Mais sur leur présence dans les amphis, elle reste prudente et renvoie la question de l'organisation des cours aux établissements. À la CPU, la conférence des présidents d'université, on explique que la pédagogie a évolué grâce au numérique, avec des cours plus interactifs. Il est donc possible de ne pas avoir tous les étudiants en présentiel en même temps. S'il le faut, en fonction de la situation sanitaire en septembre, les jauges des salles seront modifiées et la part d'enseignement hybride sera accrue. Un professeur pourra, par exemple, pour un cours en amphi, être une fois sur deux à distance. Quant au week-end d'intégration, la ministre a précisé qu'il pourrait être considéré comme de grands rassemblements où le pass sanitaire serait exigé. Elle lance une campagne de vaccination auprès des étudiants qui sont déjà 71% à avoir commencé à se faire vacciner. Des barnums de vaccination seront installés sur les campus à la rentrée pour accélérer encore le processus.
Encore une rentrée particulière. Sonia Princesse, spécialiste éducation à France Inter. Le Covid et son variant qui s'étend aussi chez nos voisins. La France, vous le savez, conseille à ceux qui n'ont pas encore réservé d'éviter l'Espagne et le Portugal. Et puis voici une décision qu'aucun pays d'Europe n'a encore osé, mais qui pourrait faire tache d'huile. Malte annonce fermer ses frontières à tous les voyageurs non vaccinés à partir de mercredi prochain. Un test PCR donc ne suffira plus, sauf pour les moins de 12 ans. La pandémie qui s'accélère un peu partout sur la planète, situation toujours dramatique en Indonésie, plus de 30 000 nouveaux cas quotidiens, le vaccin chinois visiblement peu efficace et des hôpitaux asphyxiés. Ho Chi Minh-ville au Vietnam ou encore Bangkok en Thaïlande confinée. La flamme olympique quant à elle est arrivée à Tokyo au Japon aujourd'hui, mais pour une cérémonie sans public. Les JO dans deux semaines dans des stades vides pour la plupart.
On a peut-être un petit mot sur le... Il est 19h06.
Les Américains partent et les talibans reviennent. Le 31 août, il n'y aura plus aucun GI en Afghanistan après 20 ans de présence. Quelques heures après cette annonce de Joe Biden, les talibans vont font savoir que désormais, ils contrôlent 85% du territoire. Difficile à vérifier. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi puissants depuis 2001. Que leurs combattants grignotent du terrain chaque jour, les districts tombent les uns derrière les autres, de la frontière iranienne à celle avec la Chine. De quoi faire trembler Kaboul, où les habitants ne se font pas beaucoup d'illusions. Reportage pour France Inter, Sonia Ghezali.
Moujda est manager d'une boutique de vêtements pour femmes dans le centre de Kaboul, dont la styliste, célèbre en Afghanistan, a trouvé refuge en Turquie dernièrement. Moujda, elle est restée, mais elle craint le pire.
Les talibans sont des sauvages, ils ne veulent pas voir les femmes progresser. Et ils ne sont pas les seuls à penser comme ça. Beaucoup de gens en Afghanistan pensent ainsi. Ils veulent que les femmes soient dans la même situation qu'il y a 25 ans, qu'elles portent la burqa et restent à la maison. Nous sommes dans une société patriarcale et dominée par les talibans.
Omid vend des instruments de musique et donne des cours de guitare dans le centre de Kaboul. Lui aussi veut quitter son pays. Depuis quelques mois, il reçoit des menaces.
Des hommes m'appellent et me disent que la musique est illicite, qu'elle est interdite dans l'islam. Ils me menacent et me disent « on va venir casser tous tes instruments, toutes tes guitares sur ta tête et ensuite on verra ce qu'on fera de toi ».
Le professeur de musique souhaite vendre toutes ses guitares et ses roubabs pour pouvoir payer un passeur afin de fuir en Iran.
Sonia Ghezali, reportage à Kaboul pour France Inter. Retrait des troupes là encore. L'opération Barkhane, chronique d'une fin annoncée. La France va commencer à fermer ses bases dans le nord Mali d'ici la fin de l'année. Les militaires vont s'en aller, pas tous. Autour de 3000 devraient rester en poste dans la lutte contre le terrorisme, promet Emmanuel Macron. Il était en réunion avec les pays du G5 Sahel cet après-midi. Des images surprenantes publiées cette semaine par les médias mexicains. Les membres du cartel le plus puissant du pays posent à visage découvert, armes à la main pour une séance photo. Démonstration de force qui met un peu plus en lumière l'impuissance du gouvernement. Au Mexique, la guerre des cartels fait près d'une centaine de morts par jour. Correspondance depuis Mexico, Emmanuel Stils.
C'est un défi lancé à l'État, selon les médias mexicains. Des hommes bombent le torse en brandissant leurs fusils d'assaut et leurs munitions. Derrière eux, une rangée de véhicules blindés. Ce défilé militaire hors norme se déroule à Aguilia, dans le centre du Mexique. Les membres du cartel Jalisco Nouvelle Génération tiennent à faire savoir au monde entier que c'est leur territoire, comme l'analyse la chercheuse Irene Alvarez, spécialiste du narcotrafic.
Mon hypothèse est que c'est une zone qui est très disputée parce que c'est le lieu d'origine d'El Mencho, le chef de ce cartel. Donc c'est comme s'ils allaient planter leur drapeau pour dire « ce territoire est à nous ».
Los colonizadores van y ponen la bandera, ¿no?
Le cartel montre ses muscles dans une région, le Michoacán, où il bénéficie d'un soutien populaire important. C'est pourquoi le président López Obrador a demandé à la population de ne pas se laisser impressionner par ces images.
Je veux lancer un appel aux gens d'Aguililla et de toute cette région. Qu'ils nous aident à atteindre la paix. Qu'ils ne se laissent pas manipuler par les groupes criminels.
Ces dernières semaines, la stratégie pacifiste du président est sous le feu des critiques, alors que plusieurs tueries commises par les cartels ont causé des victimes civiles. Mexico, Emmanuel Stiles, France Inter.
À Marseille, Hélène, encore une fusillade cette nuit.
Et une victime, une jeune fille de 17 ans qui s'est pris des 3 balles à l'arrière d'une voiture. Visiblement, ce n'est pas elle qui était visée, mais le conducteur, un jeune de 21 ans, bien connu des services de police. Dans ce quartier paisible de Septèmes-les-Vallons, au nord de Marseille, où s'est rendue Mathilde Vinceneux, les habitants sont sous le choc.
C'est au niveau d'un arrêt de bus à l'entrée d'un lotissement qu'a eu lieu la fusillade. Selon les premiers éléments de l'enquête, 2 hommes cagoulés sont à l'origine des tirs, des salves de kalachnikov et de fusils à pompe.
Il y a une balle perdue dans ma voiture, donc je cherchais la balle, elle est par là.
Cet homme habite à une dizaine de mètres à peine de l'endroit où la voiture a été criblée de balles.
En gros, on a entendu des coups de feu à minuit moins 20. On a vu une fusil crier, ils ont tué ma soeur. Voilà.
Certains voisins sont sortis pour appeler les secours. La jeune fille de 17 ans a été touchée à la tête. Des traces de sang sont encore visibles sur la route. Cette maman est très choquée.
De voir ça à côté de chez soi, d'entendre les détonations, ça a été vraiment très effrayant pour nous et même pour nos enfants. Ça a été terrible. On a passé une nuit blanche. Nos enfants, ils n'ont pas dormi de la nuit. 17 ans, mais c'est un bébé, la pauvre. C'est un bébé, surtout qu'elle n'avait rien à voir dans l'affaire. 17 ans, mourir dans des conditions comme ça, c'est terrible.
Ce quartier est pourtant d'habitude épargné par les fusillades, assure cet habitant.
Ici, c'est un quartier très, très calme. C'est un quartier très familial. On n'a pas l'habitude d'avoir des problèmes comme ça, loin de là.
Ce matin, la police judiciaire est venue frapper aux portes, alors que les tireurs sont toujours en fuite. Septèmes-les-Vallons, Mathilde Vinceneux, France Inter.
6e victime en moins de 2 semaines, donc dans la région de Marseille. 14 personnes tuées par balle au total depuis le début de l'année. Interdit de cibler les jeunes, les plateformes de paris en ligne sont dans le viseur de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Elle réclame des sanctions. Les dépenses en paris sportifs, notamment chez les 18-24 ans, ont augmenté de 127% fin juin par rapport à l'année dernière. Et puis c'est une première en France. La Vendée, confrontée à des tensions sur ses ressources en eau, se lance dans un vaste projet. Il s'agit de réutiliser les eaux usées retraitées à des fins domestiques. Allez, on a parlé de la rentrée tout à l'heure et si on prenait les choses dans l'ordre, c'est l'heure des vacances et on ressort les drapeaux de couleur comme tous les étés. Journée rouge sur les routes en région parisienne, orange partout ailleurs, du monde aussi bien sûr dans les trains. Beaucoup affichent complet ce soir. Bonsoir Pierre Pilet.
Bonsoir.
Vous êtes gare de Lyon et vous avez rencontré des voyageurs pressés de quitter la capitale, on les comprend.
Oui, au milieu du hall bondé, devant une imposante valise rouge qui contient tenue de randonnée, caouet, gourde, Gwenaël et ses 3 enfants, direction Saint-Gervais, en Haute-Savoie, pour 2 semaines.
Ça va être du plein air. Même s'il pleut, on va sortir, on va crapahuter dans les montagnes, on va aller se nourrir des fraises sauvages. Bon, après, bon, la tartiflette, peut-être pas à cette période-là, mais ça va être les fromages, la charcuterie.
Et l'un des fils de Gwenaël, Aywen, 10 ans, n'a qu'une hâte.
Bah faire le saut en parapente, sauter d'une montagne avec un moniteur, avec un parapente. C'est une sensation qui est bien, je trouve, et t'as une belle vue dans les airs.
Benjamin amène ses 2 enfants, Héloïse et Léo, prendre un TGV à destination d'Arles. Au programme 1 mois chez les grands-parents, Léo a un sac bien rempli et des idées plein la tête.
J'ai mis des cartes Pokémon et un doudou.
Et un cahier de vacances peut-être aussi ?
Je crois pas.
Oui, on en a des cahiers de vacances.
Pas le dire. On va se baigner à la plage, regarder la télé le soir, se coucher tard, manger des cochonneries, des bonbons, des chips, des trucs comme ça.
Enfants et adultes ont une impression de libération, comme Carole qui part en thalasso à Annemasse. Elle espère oublier la pandémie le temps des vacances.
Moi, en tant que DRH, j'ai beaucoup souffert du Covid, à mettre en place les mesures sanitaires, équiper les gens, rassurer, protéger, expliquer. Donc c'est épuisant et c'est en plus du quotidien habituel.
Plus de 330 000 voyageurs sont attendus d'ici dimanche soir, Gare de Lyon.
Voilà, la foule Gare de Lyon, ce n'est que le début. Pierre Pilet avec Arthur Gerbeau à la technique. Merci à tous les deux. De la route des vacances à celle du Tour. Après les Alpes, cap sur les Pyrénées, 220 km entre Nîmes et Carcassonne aujourd'hui, la 2e plus longue étape de ce tour était faite pour les sprinteurs. Et voilà, c'est fait. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Hélène.
Le Britannique Cavendish rejoint le grand Eddy Merckx au firmament, 34 victoires d'étape au compteur.
Et une petite musique à laquelle on commence à s'habituer.
Le sprinter number one au monde et de l'histoire du Tour de France, Marc Cavendish.
4e victoire déjà sur ce tour. Les larmes qui vont avec, celle de The Man of Man, l'homme de l'île de Man, qui entre donc dans l'histoire du cyclisme, vous l'avez dit, avec 34 succès comme Eddy Merckx, le premier en 2008, le dernier donc ce soir.
I'm afraid I'm so dead.
Oh, je suis mort.
C'était tellement dur. Les gars ont été incroyables. Non, je ne réalise pas. C'est juste une victoire de plus sur le Tour de France. C'est comme ma première. Je viens de gagner une étape sur le Tour. C'est encore un rêve d'enfant qui se réalise et j'ai travaillé tellement dur pour ça.
Cavendish est le record égalé donc avec Eddy Merckx. C'est bien qu'en pense le cannibale, Fabrice Rigobert l'adjoint.
C'est extraordinaire pour Cavendish d'avoir gagné autant de victoires. Je pense que les records sont faits pour être battus et félicitations à Cavendish, il mérite et il a fait tout pour. Quoi. C'est extraordinaire pour lui.
Le Britannique est un peu encore visé plus haut avec au moins deux étapes qui devraient se finir au sprint d'ici les Champs-Élysées. Précisons que s'il rallie Paris, il devrait y remporter également, Hélène, le deuxième maillot vert de meilleur sprinteur de son histoire après celui décroché en 2011.
Bon, voilà pour les larmes de joie, mais Fanny, on a aussi eu aujourd'hui presque des larmes de douleur, hein. Grosse frayeur sur la route du Tour.
Oui, avec encore une chute spectaculaire à 65 km de l'arrivée, mettant à terre une vingtaine de coureurs. Certains ont fini dans les branchages, sous les yeux ahuris de Julien Jourdi, le directeur sportif d'AG2R Citroën.
Il y avait les gravillons dans la descente, c'était assez impressionnant, des coureurs assez loin dans le fossé, dans la forêt. Pour nous, fort heureusement, Benoît est tombé, mais sans gravité. Par contre, le vélo est coupé en deux, c'est assez impressionnant. J'espère qu'il n'y a pas de blessés graves.
Trois coureurs ont tenté de repartir, mais ont dû quand même abandonner. Ils ne sont plus que 151 dans le peloton contre 184 au grand départ de Brest. Mais allez, on passe à l'image du jour, Hélène, ou les images plutôt ce soir, avec tous ces messages que l'on voit au bord des routes du Tour. C'est aussi cela, le Tour de France, un moyen de communiquer. Comme cet homme, ce matin, à la sortie de Nîmes, qui sur un grand panneau demandait « Maratatouille, veux-tu m'épouser ?» On ne saura jamais qui est Maratatouille, elle se reconnaîtra. Ou hier à Barjac dans le Gard où le maire a lancé un appel, c'est plus sérieux, pour trouver un médecin avec cette banderole. Pédaler c'est la santé, mais la santé sans médecin, ce n'est pas terrible.
On a hâte, Fanny, de découvrir les nouveaux messages demain, 14e étape Carcassonne, qui en Fanny Lechevestrier sur la route du Tour pour France Inter. Du bitume au tapis rouge, deux films en compétition à Cannes aujourd'hui. La fracture de Catherine Corsini, vibrant plaidoyer sur l'hôpital public, et le sulfureux Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira. Un film, Alexis de Meyer, qui suscite déjà une bonne controverse, comme la croisette les aime tant.
C'est Jésus qui m'a fait ça. Les stigmates.
Du sang, Jésus, du sexe et du blasphème. À bientôt 83 ans, Paul Verhoeven aime toujours autant l'odeur du soufre. Le réalisateur de Basic Instinct et de Robocop nous revient avec une savoureuse comédie grinçante sur l'église, inspirée de l'histoire vraie d'une nonne italienne du XVIIe siècle accusée d'avoir eu des relations lesbiennes. Benedetta est une charge anticléricale très puissante, même si le malicieux Verhoeven semble s'en défendre.
J'ai seulement trouvé que c'était utile aussi scénario, parce que je voulais être historiquement juste, je ne voulais pas inventer des choses. Mon film est basé sur le livre de l'historienne Judith Brown, qui n'est pas de la fiction.
Dans le rôle-titre, Virginie Efira livre une prestation magistrale tout en ambiguïté, avec une belle mise en abîme, puisque Benedetta, cette femme qui passe son temps à mentir et à jouer des personnages extrêmes, est elle-même plus une actrice qu'une religieuse. Benedetta serait bêtement choquant, notamment par ses scènes de sexe, s'il était pris au pied de la lettre, mais c'est bien au second degré que le film prend toute sa dimension.
Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe, ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins.
Benedetta de Paul Verhoeven au Festival de Cannes avec Alexis Demeyer. Enfin, ambiance un peu plus énervée à l'ouest. Le Hellfest, le festival de métal à Clisson, près de Nantes, encore une fois annulé cette année. Chez les spectateurs, peut-être trop de frustration accumulée. Résultat, 60 000 billets pour l'année prochaine se sont vendus en quelques heures à peine. L'édition 2022 complet. Ben Barbeau, fondateur du Hellfest, avec Sarah Mansoura de France Bleu Loire-Océan.
On fait plutôt face à beaucoup de gens qui n'arrivent pas à mettre la main sur les billetteries, surtout qu'on fait deux festivals l'an prochain, donc c'est 420 000 personnes qui vont être attendues, et se dire que finalement on aurait peut-être pu le vendre encore deux fois, ce festival-là, c'est effectivement assez hallucinant pour l'esthétique musicale qu'on défend, quoi. Bon, j'ai bien conscience que l'effet Metallica a effectivement donné un élan encore supplémentaire, mais donc voilà, on peut pas évidemment se plaindre de la situation. On est le premier festival de musique actuelle au monde complet pour 2022, sur deux week-ends, voilà.
L'espoir est dans le métal. Metallica, hein, sur l'affiche à l'échange du Hellfest l'an prochain, on trouvera aussi les Scorpions, Alice Cooper ou encore les Guns N' Roses.
J'imagine que vous illustrez, peut-être que je vous connais.
J'espère
peut-être que
bien.
Vous, peut-être que vous bougez là, hein, Hélène Roussel.
Vous savez tout.
Voilà, c'est l'an prochain, il faut patienter un petit peu. Allez, plus près de nous, la météo du week-end.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Temps pluvieux au nord demain.
Et de nouvelles pluies gagneront la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France le matin. Quelques averses aussi entre la Vendée et la région parisienne, mais on aura quand même des éclaircies sur le nord-est. L'après-midi, ces pluies glisseront vers le centre-Val de Loire, le bassin parisien, le nord de la Seine, la Bourgogne, la Lorraine. Elles seront parfois accompagnées d'orages. Et puis on a de petites éclaircies qui reviendront sur le nord-ouest. Au sud, beaucoup de soleil, mais en fin de journée, les nuages seront plus nombreux sur le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes avec des averses parfois orageuses. Il fera seulement 17 degrés à Caen demain après-midi, 19 à Lille et à Brest, 21 à Paris, à Biarritz, 24 à Metz ou à Limoges, 27 à Mulhouse, à Lyon, à Agen, 29 pour Toulouse et Bastia, et on ira jusqu'à 32 à Nîmes.
Un petit mot pour dimanche ?
Alors encore pas mal de nuages près de la Manche avec quelques gouttes, 18 à 22 degrés, de belles éclaircies sur les autres régions du Nord, 22 à 27 degrés attendus, et puis au sud du soleil, 27 à 33 degrés, mais attention, ça se gâtera en soirée sur le sud-ouest avec l'arrivée des orages.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.